chronique de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Retrouvons Lydia Arambourg pour sa chronique « Les peintres du XXe siècle » consacrée aujourd'hui à Édouard Goergue.
Édouard Goergue, une œuvre, miroir d'une vie. Rarement une œuvre aura été le reflet d'une vie dominée par les sentiments. Celle de Goergue révèle des messages à la lueur d'un destin émaillé de chapitres restés dans l'ombre, lui-même cultivant le mystère avec ses écrits publiés sous des pseudonymes. N'est-il pas né au cours d'un voyage de ses parents partis de France pour ouvrir des comptoirs de champagne en Australie en 1893 ? Son décès en 1969 à Caillan dans le Midi, où il s'est installé en 1956, est resté inexpliqué et se complique de la disparition de tous ses écrits et mémoires qu'il tenait depuis 1912. Par les origines irlandaises de sa mère, le jeune Édouard est imprévisible, téméraire, volontaire et obstiné. Pour devenir peintre, il affronte l'opposition paternelle, rompt avec sa famille, renonce à une situation sociale et financière et se met volontairement en marge de la société dont il devient le pourfendeur impénitent. Il se fait un devoir de critiquer et de caricaturer les mœurs hypocrites d'une bourgeoisie qu'il a rejetée, incapable de voir dans son art l'expression d'une vérité. Goergue fréquente l'Académie Ranson, où professent Paul Sérusier et Maurice Denis, et suit l'enseignement de Bourdel. En 1914, il est mobilisé et envoyé en Artois, en Argonne et en Lorraine, puis 2 ans plus tard, rejoint l'armée d'Orient. Cette expérience laissera des stigmates profonds, qu'il transpose dans ses peintures avec la verve d'un daumier, comme le montre une eau-forte de 1930, le tortillard, la dénonciation d'un Goya, le joli petit jeune homme, une eau-forte de 1928. Son combat politique et social sous-tend une révolte permanente contre les hypocrisies qu'il vilipende. L'horreur vécue des combats, les souffrances endurées par les soldats, la déchéance des corps et celle de l'âme le font peindre dans une tension où les souvenirs convoquent son imagination. L'expressionnisme au service d'une ironie cruelle. À son retour à la vie civile, Goergue refuse de se glisser dans la peau d'un artiste dans le sens conventionnel du terme. Ce n'est pas une affaire d'esthétisme, mais d'éthique. Il ne se pose pas en moraliste, encore moins en humoriste, étant trop amèrement sérieux pour l'être, mais en créateur. Le mariage, 1924, la bonne fortune, 1925, la malédiction paternelle, 1928, compte parmi ses toiles majeures en s'attaquant à la moralité de la société bourgeoise de l'après-guerre. Il y gagne non la reconnaissance, mais les sarcasmes et l'incompréhension de la critique et du public. Qu'importe, il est libre. La prise de conscience sociale et le contenu politique marquent ses œuvres de façon indélébile. Écartelé entre l'angoisse et la révolte, il recourt à un expressionnisme proche de celui de Cross. Tout ce que Goergue peint, dessine, écrit est caractérisé par une pluralité et une contradiction. Le dessin se soumet-il à un objectif social ? Il est aussitôt rattrapé par l'imaginaire. Le trait acéré, la ligne introspective se différencie nettement des caricatures de la presse quotidienne. Son dessin est celui d'un graveur qui vient de découvrir la technique de l'eau-forte avec laboureur et grommaire. Il illustre « Ouvert la nuit » de Paul Morand en 1922 et « Knock » de Jules Romain en 1926. La tentation surréaliste. Goergue appartient à la terre champenoise, celle des imagiers tailleurs de pierre et des gargouilles des cathédrales. Le paradis et l'enfer se déploient sur leurs façades. Leur narration traverse des thèmes cosmiques et religieux qu'il développera jusqu'à la fin de la guerre. Ses illustrations pour l'Apocalypse, parues en 1944, en est un éloquent exemple. Il demande à l'art d'exprimer la vastitude ravageuse de l'univers, comme dans cette eau-forte de 1938 intitulée Oiseaux chassés du ciel. Un paysage composé d'éléments réels et imaginaires qui, en altérant les proportions, introduisent une dimension poétique à la manière de Bredin. En 1925, l'année de sa deuxième exposition personnelle chez Berthe Veil et de ses débuts Galerie Bernheim Jeune, il peint une huile, l'enfer. Proscrit par les siens, le thème de la faute est ici décrit avec lucidité, dans un style cauchemardesque. La seule issue pour s'évader de ce lieu de supplice est gardée par un dragon. 10 ans plus tard, Goerg donne une nouvelle version avec « L'enfer ou la révolte des morts ». Ici, l'évocation de la torture déclenche un dessin spiriforme. Il a mûri les leçons de Goya, Hogarth, et surtout il est sous le choc des tableaux de Bosch et de Bruegel, récemment découverts lors d'un voyage en Belgique et en Hollande en 1934. L'étoile sombre et puissante qu'il peint à son retour, d'une vigueur d'expression enrichie par la douleur, sont celles d'un plasticien accompli. Magicien de la couleur, il est, suivant l'expression de Paul Guillaume qui, en 1928, l'a fait exposer à Boston et à Chicago, un merveilleux broyeur de la pâte enchantée. Des scènes intimistes, des portraits qui préfigurent par leur carnation nacrée et transparente ses premières femmes fleurs peintes pendant la guerre. Ainsi va le monde sous l'œil de la police. Peint en 1934, est un vaste tableau de 1,30 m sur 1,95 m, dans lequel Goerg dénonce avec un sens prémonitoire les futurs carnages qui vont décimer l'humanité. Les formes d'apparence humaine se soulèvent dans des ténèbres brusquement réveillées par la lumière piégée et creusent des abysses où s'égarent nos cauchemars. 1934 est une année féconde pour Goerg qui peint le déluge ou le mariage du ciel et de la mer, le barrage rompu ou l'inondation, les forges de Vulcain, Prométhée vole le feu aux dieux, exposé avec d'autres peintures surréalistes chez Jeanne Castel. Son surréalisme visionnaire stigmatise le délire avec une jouissance de la peinture qui ne faiblira pas. Son fantastique s'infléchit parfois vers le rêve. La fillette au cheval de bois, annonciateur de ses femmes et de ses fleurs aux carnations sensuelles. Goerg expose aux indépendants depuis 1920, devient sociétaire du Salon d'automne en 1926. Il se rend en Espagne en 1937 en compagnie d'Aragon, qui lui ouvre les portes des maisons de la culture. Période charnière. L'enfer a pris réalité de l'actualité. Pour échapper à la déportation, son épouse André Berolzheimer, d'origine juive, et sa fille, Claude Lise, quittent le domicile familial aux 11 rues du Couédic, devenu le rendez-vous d'un groupe de résistants avec lesquels Goerg réalise des tracts de propagande anti-nazie imprimés sur pierre lithographique. En 1943, sa femme tombe gravement malade et décède l'année suivante. Goerg peint sans relâche. Il expose chez Drouan-David en 1942 et chez Le Garec en 1943. La gravure l'occupe autant que la peinture. En 1944, il achève les illustrations de l'Apocalypse et en 1945, celle des Fleurs du Mal, qu'il aura mis plus de 5 ans à réaliser. Le deuxième volume paraîtra en 1952, édité par Marcel Sautier. Il délaisse les thèmes de la critique bourgeoise et peint des portraits dans lesquels on retrouve les tons nacrés d'avant-guerre. Il expose chez Drouan-David à la Galerie Visconti et signe un contrat avec Jean-Claude Bellier en 1960. Première femme fleur. Déesse moderne, c'est Vénus, Daphné, Suzanne. Les femmes de Goerg sont des femmes enfants à la beauté troublante, entourées de bouquets de fleurs qui l'opposent à la laideur morale et à la concupiscence de l'homme qui fait son apparition à l'arrière-plan. Une innocence de l'Éden baignant dans une atmosphère élégiaque qui sera vite rattrapée par les charmes ambigus de ces jeunes modèles. À nouveau, le destin est l'arbitre d'une vie dont sa peinture témoigne. En 1946, Goerg s'est remarié. Il se remet lentement d'une dépression soignée par une longue suite d'électrochocs à la suite du décès de son épouse André. Le nouveau ménage connaît de fortes tensions. Si Goerg vend désormais Ce sont ses nouvelles peintures qui sont appréciées de la critique. Les toiles antérieures à 1940 ne sont plus montrées. En 1949, Goerg a obtenu le premier prix de peinture Hallmark avec une nativité et le prix de gravure de Lugano en 1950, l'année de sa nomination à l'École des Beaux-Arts de Paris où il enseigne l'eau-forte et la peinture à la Grande Chaumière. Il participe à la Biennale de Venise en 1952 et 1954. Dès 1955, il expose en province, mais aussi en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, en Europe, à Genève, où a lieu une importante rétrospective en 1960 au musée de l'Athénée. Il participe régulièrement aux peintres témoins de leur temps et dès 1937 à la Société des peintres graveurs, dont il est le président de 1945 à 1958. Sensualité et volupté. Sa verve continue à s'exercer dans des scènes intimistes où la femme est l'objet d'un voyeurisme impitoyable. Ses nus de fausses ingénues sont entourés de témoins masculins en habit. Sa peinture devient le miroir d'une société dont elle veut exorciser le pouvoir malveillant. Retirée dans le Midi à partir de 1957, sa nouvelle épouse commercialise une peinture dont Goerg épuise les thèmes. Sa palette s'est éclaircie, mais l'anxiété a fait sa réapparition. À la vivacité des couleurs correspond un climat trouble, d'un face-à-face dérisoire entre la femme et l'homme. Il s'en dégage ce qu'il appelle le comique des formes quotidiennes. Cette expression grimaçante, tracée d'un pinceau moins mordant mais non moins lucide, caractérise la galerie de portraits des dernières années. Sous le masque moqueur, transparaît le constat d'une impuissante rédemption. Ardent défenseur de l'art figuratif, Goerg écrit à André Malraux une lettre ouverte en 1960 sur la question de l'abstrait. La reconnaissance lui est acquise. En 1968, une exposition est organisée au Château-Musée de Cagnes. Édouard Goerg est élu en 1965 à l'Académie des Beaux-Arts au fauteuil de Willem van Hasselt.